femme.
Oui, bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je remercie Madame Trénaud de son invitation pour venir vous parler, en effet, des statues du parc de Marly. Alors, un sujet qui me concerne évidemment un petit peu plus particulièrement, puisque je suis en effet chargée au château de Versailles, en particulier des sculptures, avec mon collègue Lionel Arsac. Et les sculptures de Versailles, évidemment, sont très liées avec les statues du parc de Marly. Alors, vous le savez, le domaine de Marly, aujourd'hui, est un lieu un petit peu onirique, hein, qui évoque le passé du règne de Louis XIV. Et quelques sculptures, qui sont aujourd'hui des copies ou des répliques du XXe siècle, permettent d'évoquer cet ensemble assez extraordinaire de sculptures qui ont donc orné le parc de Marly au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors je vous propose justement ce soir d'essayer de faire un petit panorama ensemble de cette collection. Alors évidemment nous n'allons pas tout voir, sinon il y en aurait pour des heures. Donc j'ai fait une petite sélection d'œuvres qui sont les plus connues et celles qui me plaisent le plus pour vous faire donc cette présentation du parc de Marly tel qu'il pouvait être au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV. Alors d'abord, revenons sur le domaine de Marly avec cette citation célèbre des mémoires de Saint-Simon. Donc on est à la fin, du règne de Louis XIV, enfin en tout cas de ce qu'évoque Saint-Simon. Et voyez ce qu'il écrit: « À la fin, le roi, lassé du beau et de la foule, » donc là on est à Versailles évidemment, « se persuada qu'il voulait quelque chose du petit et de la solitude. » Voilà. Donc c'est comme ça que Louis XIV conçoit ce château de Marly que vous voyez ici sur ce célèbre tableau de Denis Martin. Donc c'est en 1676 que Louis XIV acquiert les seigneuries de Marly et de Montmorency. Donc c'est un site qui est tout près de Versailles, un vallon escarpé entre Versailles et la Seine, mais aussi entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, qui sont évidemment deux résidences royales importantes. Alors pour vous situer un petit peu, à ce moment-là, le château de Versailles est en train de prendre l'aspect que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que Mansart est en train d'édifier la Galerie des Glaces. Donc la première implantation de Louis XIV à Marly est contemporaine de la construction de la Galerie des Glaces, et le Trianon de porcelaine, qui a donc précédé l'actuel Grand Trianon, a seulement 4 ans d'existence. Voilà. Alors le roi est âgé de 38 ans à ce moment-là. C'est pour ça qu'on n'est pas à la fin de son règne, hein. C'est par rapport à la citation de Saint-Simon. Donc le roi âgé de 38 ans souhaite donc une petite retraite, proche et éloignée de Versailles à la fois, et donc il jette son dévolu sur Marly. Donc les travaux d'aménagement commencent l'année d'après, quelques années après, en 1679, et sont terminés en 1683. Alors, l'architecture de ce château est assez étonnante. Il s'agit en réalité du pavillon royal que vous voyez donc au centre. Alors, je ne sais pas si vous voyez la souris. Non, alors, donc, bref, donc c'est le pavillon que vous voyez ici au centre, situé dans l'axe du vallon, et qui est donc entouré de part et d'autre de 6 petits pavillons carrés aux façades peintes. Alors on retrouve cette dimension cosmique, hein, vous savez que Louis XIV est le roi soleil, le pavillon royal étant orné d'une symbolique solaire justement, et chaque pavillon évoquant les planètes du système solaire qui gravitent donc autour du soleil. Les invités étaient sélectionnés par le roi, et cela devint un insigne honneur, de pouvoir être convié à Marly. On sait que les courtisans demandaient Sire Marly comme demande pour être reçu. Donc c'est un lieu de détente et de plaisir. On y joue, on y danse, on assiste à des spectacles à l'intérieur, tandis que le parc est vraiment conçu comme un parc d'attractions, avec un toboggan, un traîneau glissant sur des rails, des jeux de boules. Donc voilà, pour caricaturer, c'est un petit peu le Disneyland de Louis XIV de l'époque, juste à côté de Versailles. Alors le parc fit l'objet des attentions du roi, ce qui créa de très nombreux changements qui rendent assez complexe l'étude de celui-ci. Alors, sur le sujet, le dernier ouvrage et l'ouvrage de référence qui vous est présenté au fond de la salle, c'est celui de Geneviève Bresque-Bottier, qui est la directrice honoraire du département des sculptures du Louvre, qui a fait un travail remarquable en étudiant justement toutes ces sculptures qui sont passées par le parc de Marly. Alors, comme elle le montre dans son ouvrage, justement, la statuaire est arrivée dans un second temps. Il fallait d'abord structurer l'espace. Au centre, on avait une grande perspective, comme vous le voyez ici, qui descendait en pente du sud vers le nord. Elle commençait par une longue cascade que vous apercevez tout en haut du tableau, qu'on appelait la rivière, qui s'arrondissait en amont du pavillon royal, et puis elle descendait en paliers successifs avec de larges bassins. Les quatre jets, les nappes, et jusqu'à l'abreuvoir que vous voyez au premier plan du tableau. De chaque côté de cette perspective, on organisa de plus petits espaces, des fontaines, des bassins, des allées, des bosquets ou des cabinets. Et les sculptures, justement, servaient de point de perspective où venaient rythmer les parois du parc. Et ce sont elles, bien souvent, qui donnèrent leur nom au bosquet. Alors, comme vous allez voir, le marbre fut vraiment le matériau privilégié, même si on avait également du bronze et du plomb dans les jardins de Versailles. Alors, un petit mot sur la sculpture à l'époque de Louis XIV. Louis XIV a créé une institution qui est très importante, c'est l'Académie de France à Rome, que vous voyez ici à l'écran. Alors, que vous ne reconnaissez sûrement pas, puisqu'aujourd'hui, elle est installée dans la célèbre Villa Médicis à Rome, mais à l'époque, elle est installée dans ce palais, le palais Mancini, sur le Corso, donc vraiment dans le centre de Rome, et c'est là que le roi envoie des sculpteurs qu'il pensionne pour qu'ils puissent aller se former à Rome, étudier les sculptures de l'Antiquité, et ensuite faire des copies qu'il renvoie en France pour orner les résidences royales. Alors il y a plusieurs modes opératoires, soit on achète de véritables sculptures antiques aux grandes familles romaines ou que l'on trouve dans les fouilles à Rome et que l'on envoie ensuite en France, ou alors ce sont vraiment ces sculpteurs français qui se forment à Rome et qui soit copient les sculptures antiques ou bien s'en inspirent pour créer leur propre création. Alors, Édouard Colbert de Villacerf, que vous voyez ici à gauche, qui est le cousin du plus célèbre Jean-Baptiste Colbert, devient surintendant des bâtiments du roi en 1691, donc justement dans ces années où Louis XIV fait construire Marly. Et donc c'est sous sa surintendance que les premières sculptures sont installées à Marly. Dans un premier temps, on installe des œuvres venues de Paris, de Versailles, de Vincennes, des antiques, comme je vous le disais, ou bien des copies d'antiques. Alors, voyons un premier cas pratique. Vers 1686, François Girardon, que vous voyez ici à droite, qui est vraiment le plus grand sculpteur du règne de Louis XIV, et qui a dirigé également un certain nombre de sculpteurs, va donner des modèles en cire pour trois figures pour le bosquet des Dômes à Versailles, bosquet qui existe toujours. Donc trois figures, dont celle de l'aurore qui apparaît dans une planche gravée qu'on appelle la galerie de Girardon. Donc c'est une recomposition de toutes les collections qui se trouvaient chez ce sculpteur et qui permettent de voir toutes ses productions. Donc là vous voyez, j'ai fait un petit zoom, cette figure de l'aurore qui est représentée sur cette gravure qui date de 1709. L'exécution de la statue finale en marbre est confiée au sculpteur Philippe Magnier. Celui-ci va commencer l'œuvre, puis il est interrompu par des travaux qu'il fait dans l'église des Invalides à Paris. C'est alors qu'en 1693, Colbert de Villacerf, qu'on vient de voir, décide de faire également exécuter une version en bronze pour Marly. Donc c'est la statue que vous voyez ici à l'écran. Celle-ci est fondue par Balthazar Keller, qui est le grand fondeur de Louis XIV, à qui on doit toutes les sculptures en bronze qui se trouvent notamment dans les jardins de Versailles. Et le bronze, que vous voyez ici à l'écran, est installé après 1701 dans le jardin haut de Marly. Donc là, je vous ai mis deux flèches. La flèche du bas montre le pavillon royal, l'emplacement, et donc en haut, vous voyez l'emplacement de ce jardin haut de Marly, dans le belvédère, avec 8 autres bronzes. Alors, la statue représente l'aurore descendant de son char, comme vous le voyez à gauche, en forme de coquille. Elle tient des fleurs dans son manteau qu'elle s'apprête à déverser délicatement de sa main droite. Alors, point intéressant, le marbre de Magné que vous avez à droite est installé quasiment en même temps dans le Bosquet des Dômes à Versailles cette fois-ci. Mais le sculpteur, comme vous pouvez le voir, a fait une petite modification. Il a remplacé le char par des nuages, des nuées, que vous voyez ici sur ce piédestal. Donc on voit aussi que chacun des sculpteurs pouvait apporter sa propre originalité. Et le bronze de Marly, que vous voyez donc en photo, est transféré en 1794 dans le jardin des Tuileries à Paris, puis à Saint-Cloud et enfin au Louvre, où on peut le voir donc aujourd'hui. Alors, autre exemple célèbre, il s'agit de Diane. Donc, parmi les premières acquisitions de statues modernes figure la Diane du sculpteur Anselme Flamen, qui est placée en 1694 dans un bosquet spécifique sur une fontaine de rocaille et surmontée d'un baldaquin. Alors voilà l'emplacement du bosquet en question. Donc, je vous ai encore remis sous la première flèche en haut le pavillon royal et vous voyez l'emplacement du bosquet de Diane. Et alors voilà cette mise en scène qui était quand même assez extraordinaire. Donc vous voyez, la statue était placée sur une fontaine de rocailles, c'est-à-dire avec des coquillages juste en dessous qui évoquaient cette nature et l'eau qui se déversait de la fontaine. Et elle était surmontée d'un baldaquin qui était en fait un pin parasol taillé, c'est ce que vous voyez en haut de la gravure, donc qui évidemment avait un aspect assez extraordinaire. Alors Diane est la déesse de la chasse. C'est aussi la sœur d'Apollon, le dieu du soleil, donc elle est doublement importante dans l'iconographie autour de Louis XIV. Elle est représentée debout, son carquois sur le dos, son arc à la main, donc là vous voyez qu'aujourd'hui l'arc a un petit peu souffert d'avoir été placé en extérieur, donc il reste juste un petit morceau qu'elle tient dans sa main. Une peau de chevreuil autour de la taille, coiffée d'un diadème avec un croissant de lune, qui est son emblème. Un filet accroché sur un tronc d'arbre sur le côté. Et de la main, vous voyez, elle caresse la petite levrette qui bondit à ses pieds. Alors Diane est importante car plusieurs compagnes de Diane vont être ensuite commandées, non pas pour réaliser un seul et même bosquet, donc on n'a pas voulu les réunir, mais toutes ces compagnes vont être un petit peu dispersées dans le parc de Marly. Alors voilà toute la série. Donc vous voyez qu'il y en a eu un certain nombre. Celle de gauche représente Callisto, alors un autre mythe très beau de la mythologie grecque, dont le nom signifie la plus belle, Callisto, et c'était une des nymphes justement qui accompagnait Diane à la chasse. Elles avaient toutes fait vœu de chasteté, mais Callisto est séduite par Jupiter, qui avait pris la forme ou de Diane ou d'Apollon, on n'est pas très bien sûr, et elle se retrouve donc enceinte de Jupiter. Découvrant la vérité, Diane entre dans une grande colère et la menace de ses flèches. Et c'est à ce moment-là que Junon, la femme de Jupiter, la transforme en ours. Ours que Diane va quand même finir par tuer lors de ses chasses. Pour ne pas terminer là cette histoire, Jupiter fait d'elle la constellation de la grande ours et son fils Arcas, la petite ours. Donc c'est là l'origine mythique de ces deux constellations. Et donc vous voyez qu'on avait également quatre autres compagnes de Diane, sculptées par différents artistes. Celle qui est juste à côté de Callisto avait un oiseau sur sa main qui a aussi été cassé. Et elles sont toutes accompagnées presque par un petit chien qui les accompagne. Alors passons maintenant à un autre bosquet, le bosquet des bains d'Agrippine. Ce bosquet des bains d'Agrippine, le nom faisait référence au lieu sur la colline du Viminal à Rome qu'on avait trouvé en lien donc avec Agrippine. Alors il se composait de deux parties. En haut, alors voilà l'emplacement donc dans le parc de ce bosquet d'Agrippine. Et voilà donc ce bosquet en deux parties. En haut, un ensemble semi-circulaire formé de trois bassins et un grand bassin en hémicycle, d'où l'eau dévalée par degrés, c'est ce que vous voyez juste en dessous. Au centre, on plaça la statue antique d'Agrippine, trouvée à Rome, justement, venant des collections du cardinal de Mazarin, qui était le premier ministre et le parrain de Louis XIV. Et le cardinal a donné toute sa collection à son filleul, dont cette célèbre Agrippine. Alors, elle a été particulièrement reproduite et célèbre, puisqu'elle faisait partie des plus célèbres antiques de la collection de Louis XIV, et elle fut gravée, comme vous le voyez ici à droite, par Claude Mélan, dans un ensemble qu'on appelle le cabinet du roi, où Claude Mélan a gravé toutes les plus célèbres pièces de la collection du roi. Donc toutes les plus célèbres antiques sont dans cette série, et donc vous voyez cette Agrippine. Alors elle est assise sur un tabouret, et c'est prétendue impératrice romaine, car en fait on n'est pas très sûr du personnage qui est représenté. Elle est enveloppée dans sa draperie, vous voyez qu'il vient vraiment coller le bras de la figure juste devant, et elle regarde devant elle, un peu mélancolique. Et sur les côtés bassin se trouvaient deux vases, dits à l'époque à tête de plaisant, c'est-à-dire ces espèces de vieillards barbus qui ont une espèce de chapeau de lutin qui remonte et qui sert d'anse à ces deux vases. Ces deux vases sculptés par Fontelle. Alors, les deux vases sont aujourd'hui au Louvre, hein, je vous reparlerai à la fin de l'histoire de du déplacement de ces statues, et l'Agrippine se trouve aujourd'hui au parc de Compiègne, où on peut donc la retrouver. Alors, venons-en à l'un des ensembles les plus célèbres, la rivière et la demi-lune des vents. En 1696, le roi décide de faire une nouvelle cascade, baptisée la rivière, qui viendrait se jeter dans un bassin semi-circulaire derrière le pavillon royal. Quatre grands groupes de marbre furent commandés à un grand sculpteur du règne de Louis XIV, Antoine Coisevaux. Alors, je vous montre déjà cette rivière et l'emplacement de ces quatre groupes qui marchent deux par deux, deux en haut et deux en bas. Voilà le portrait d'Antoine Coisevaux, dont on reparlera juste après avec sa plus célèbre œuvre que vous apercevez déjà à l'arrière-plan. Il est représenté ici avec ses outils de sculpteur. Et donc, on commande à Antoine Coisevaux, en haut, la Seine et la Marne, et pour la partie basse, Neptune et Amphitrite. Alors c'est évidemment symbolique, les flots du fleuve, la Seine et son affluent, qui irriguent le parc de Marly, se déversent donc symboliquement vers la mer qui est représentée dans le bas de cette rivière. Alors la Seine est représentée comme un homme car c'est un fleuve, symboliquement on représente plutôt les fleuves comme des hommes et les rivières comme des femmes à l'époque. Il tient un aviron à la main et le bras est appuyé sur une urne renversée. Ça, c'est une iconographie typique pour bien montrer l'eau du fleuve, tenant dans sa main une grappe de raisin. À ses pieds, vous apercevez un petit faune couché, donc un faune avec tout un corps qui accompagne le cortège de Bacchus, qui attrape justement la grappe de raisin dans la main de Jupiter. Et derrière, donc là on ne voit pas l'arrière, mais il y a un enfant debout qui soutient un bouclier sur lequel il y a trois fleurs de lys. Ce dernier enfant qui était en place a disparu à la Révolution, donc on ne peut plus le voir aujourd'hui. Alors la Marne à droite est une femme, je vous le disais puisque c'est une rivière, elle est coiffée d'épis de blé et de fleurs, et elle tient une corne d'abondance remplie de fruits, ainsi qu'elle également une urne renversée d'où sort de l'eau. Un enfant couché à ses pieds, que vous voyez, et il y avait également un autre enfant derrière, qui était tous deux appuyés sur des urnes, pour montrer les sources qui viennent grossir la Marne. Ce deuxième enfant a également disparu à la Révolution. Alors on a vraiment ici un contraste entre la pose très droite et très solide de la Seine et celle plus gracieuse, plus en courbe de la Marne que vous voyez à droite. Au bas de la cascade, le dieu Neptune, qui est le dieu de la mer, tient son trident des deux mains, d'un geste très dynamique, et il est en train de remettre en place le cheval marin fougueux, donc cheval marin puisqu'on voit qu'il a les pattes palmées en fait, sur lequel il se tient et qui paraît effrayé par quelques créatures marines qui seraient pas très loin. Et il y avait également à l'arrière un petit triton qui soufflait dans une coquille pour annoncer l'arrivée du dieu, mais qui a également disparu par la suite. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique que les deux fleuves et rivières que l'on vient de voir juste avant. Et en pendant, Quasvo représente Amphitrite ou Thétis, on n'est jamais très sûr de l'iconographie de ce personnage. Elle est couronnée, alors Amphitrite étant donc étant l'épouse de Neptune, hein, donc la déesse de la mer, et Thétis également une nymphe des eaux. Elle est couronnée de lauriers avec des branches de corail et des perles, et elle est assise sur un dauphin. Alors à l'époque, on représente les dauphins de façon un peu particulière, hein, c'est ces espèces de gros monstres marins que l'on voit dans tous les bassins de Versailles également, mais que l'on appelle à l'époque des dauphins. Elle tient une coquille d'une main, et de l'autre, elle lève un voile qui lui passe derrière le dos. Autour d'elle étaient trois petits tritons, un devant qui tient une coquille remplie de perles et de corail, et puis deux derrière qui se disputaient un saumon. Et on a également ici une opposition entre Neptune, que vous voyez comme un barbu très frénétique dans son geste, dans son mouvement, aux prises avec son cheval marin, et la douce Amphitrite qui est beaucoup plus gracieuse sur le côté. Au bas de la cascade, on crée d'abord le bassin de la demi-lune des vents, que vous voyez ici représenté. Il y a eu d'abord un décor de plomb avec des motifs marins et des masques aux joues gonflées qui figuraient les vents, d'où le nom de demi-lune des vents. Sur la tablette supérieure, comme vous le voyez, on plaça des marbres, on plaça des vases, 12 vases en marbre. Et puis Mansart va réaménager la partie basse en 1702 avec un revêtement de plusieurs marbres. Le bassin devient ensuite un parterre, donc c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Alors sans le bassin central hein, qui a été remis par la suite, et on commanda plusieurs sculptures pour orner les tablettes. Donc c'est ce que vous voyez, les sculptures que vous apercevez tout autour du bassin. Alors là on fait appel à Nicolas Coustou, que vous voyez ici à l'écran, Nicolas Coustou qui est le neveu d'Antoine Coisevaux, que je vous ai montré juste avant. Hein. C'est un petit peu la triade la plus célèbre de Marly, Coisevaux, Nicolas Coustou et Guillaume Coustou, son frère, qu'on va voir juste après. Donc Nicolas Coustou va exécuter deux chasseurs pour les placer vraiment de part et d'autre de l'escalier. Alors les voilà, ces deux chasseurs. À gauche, on a un chasseur terrassant un cerf qui a perdu la lame de son épée hein, avec laquelle il terrassait ce cerf. Il sera ensuite appelé Méléagre par la suite en référence à ce chasseur antique qui combattit le sanglier de Calydon. Et de l'autre côté, un chasseur au sanglier, cette fois-ci, avec un chien qui vient, vous voyez, mordre la tête du sanglier, et qui sera également appelé plus tard Méléagre, donc vous voyez qu'on n'est pas très sûr non plus des sujets qui sont représentés exactement. Donc ça, c'est vraiment les deux groupes qui sont placés des deux côtés de l'escalier, et ensuite, de part et d'autre, on va avoir deux trios de statues. Alors, premier trio, que vous voyez ici, réalisé donc par Coisevaux, un faune jouant de la flûte, donc ce personnage qui accompagne Bacchus, un faune assis sur un tronc d'arbre, en train de jouer de la flûte. Il a posé au sol, que vous apercevez, sa flûte de Pan, et à l'arrière, on a un petit satyre qui nous fait signe de nous taire, alors soit pour écouter le faune chanter, soit parce qu'il est en train de préparer une bêtise et qu'il nous dit de pas le dénoncer. Au centre, on a Hamadryade. Donc, dans la mythologie, les Hamadryades sont les nymphes des arbres, donc on est toujours dans cette thématique des bois. Elle est issue du chêne et elle est justement chaussée de brodequins faits en écorce de bois, pour rappeler cette filiation. Et derrière elle, vous apercevez la jambe à gauche d'un petit enfant qui tient un oiseau. Enfin, la dernière, Flore, la déesse des fleurs, tient de ses deux mains une guirlande de fleurs. Alors là aussi, malheureusement, la guirlande a été cassée au fur et à mesure du temps. Donc elle n'a plus qu'un petit morceau dans chaque main. Mais il faut imaginer la guirlande qui reliait les deux mains. Derrière elle, un zéphyr. Alors zéphyr, c'est un petit enfant ailé. Zéphyr, c'est un vent qui tient aussi une guirlande de fleurs. Et Zéphyr était tombé amoureux de Flore. C'est pour ça qu'on les représente souvent ensemble, Zéphyr et Flore. Alors l'autre trio de l'autre côté, cette fois-ci réalisé par Nicolas Coustou, avec un chasseur au repos, avec un chien de chasse, qui porte un javelot dans sa main, et on a également un corps de chasse. Au centre, je vous ai montré volontairement les statues tournées cette fois-ci pour que vous voyez les personnages à l'arrière. Une nymphe de la chasse assise sur un tronc d'arbre qui, alors ça vous le voyez pas, mais elle est en train de faire le geste de tirer une flèche d'un carquois pour la donner au petit enfant qui est derrière elle et qui lui tient l'arc, justement, pour la chasse. Et puis une autre nymphe de la chasse qui tient un oiseau sur ses genoux. Et derrière, on a ce petit enfant qui est en train de tirer son épée du fourreau. Donc là aussi, on le voit moins puisqu'il a un bras manquant. Mais quand vous le regardez de près, il a un visage très énergique. Et on sent qu'il s'apprête à s'élancer. Alors, est-ce que c'est pour tuer le petit oiseau ou pour aller tuer un autre animal? Mais en tout cas, il a l'air assez décidé. Donc voilà pour ces deux trios qui encadraient cet escalier. Alors on arrive à un autre ensemble célèbre, ce sont les coureurs de Marly, avec quatre salles de verdure que je vous ai pointées avec les deux flèches, dites les salles vertes, qui avaient été aménagées de chaque côté du pavillon royal. On installa en leur centre un bassin allongé, entouré d'une somptueuse balustrade dorée, que vous voyez très bien ici sur ce dessin, et dans ces bassins, sont d'ailleurs représentés, furent placés les carpes que le roi appréciait beaucoup. Il venait lui-même les nourrir dans ses bassins. Alors, elles n'ont pas duré très longtemps parce que c'était des carpes assez importantes en taille. Et évidemment, dans ce petit bassin, ça a été un petit peu compliqué pour elles de survivre. Mais en tous les cas, elles ont donné leur nom à ces bassins. Et au centre, on plaça de chacun de ces bassins, on plaça un groupe sculpté avec des figures d'abord allongées, comme celles que vous voyez ici, nymphes ou bien amphitrites, des figures aquatiques accompagnées d'enfants dorés. Donc là, c'est ces petites figures que vous apercevez autour de la figure centrale qui, elle, est en marbre. Puis en 1709-1710, 8 de ces figures d'enfants sont envoyés à Versailles, donc on fait vraiment voyager ces sculptures entre les différentes résidences, pour aller former un nouveau bassin, le bassin de l'île aux enfants, que vous voyez ici à l'écran, alors qui est vraiment très charmant, avec ces petits enfants assis sur ce gros rocher, rocher peint en naturel, hein, c'est-à-dire que le rocher est peint en marron, et tous les éléments végétaux et les fleurs sont peints de la couleur vraiment qu'ils ont dans la vie, si vous voulez. Et avec ces deux enfants sur les côtés qui donnent l'impression d'apprendre à nager, il y en a un qui est en train de se lancer à l'avant, un peu comme Superman, vers le rocher central. Alors revenons à Marly, une fois que les enfants sont partis, viennent ensuite deux paires de figures en marbre placées sur de hauts socles, alors c'est ce que vous voyez ici, de plomb doré en forme de console vers lequel des dauphins viennent se plaquer. Donc, encore une fois, ces espèces de créatures marines là, qu'on appelle des dauphins. Alors Pierre le Pôtre, un autre sculpteur, vous voyez ici le portrait, avait réalisé une copie d'une sculpture antique, l'Atalante Mazarin. Donc encore une fois, une sculpture issue de la collection du cardinal de Mazarin. Donc on avait cette Atalante à Marly, et donc le Pôtre réalise une copie. Et pour avoir un pendant, on va commander à Guillaume Ier Coustou, donc voilà le deuxième frère que vous n'avez pas encore vu, une statue en pendant. Il s'agit de la figure d'Hippomène. Alors voilà les deux statues réunies. Les deux personnages évoquent un mythe fameux des métamorphoses d'Ovide. Un oracle avait prévu à Atalante, Atalante c'est la femme, qu'elle changerait de forme si elle venait à se marier. Donc, elle décourageait tous les prétendants en les défiant à la course, parce qu'elle courait très vite, et elle faisait mettre à mort les concurrents vaincus. Donc, évidemment, ça devenait un petit peu difficile d'épouser Atalante. Pour les amateurs d'opéra entre vous, c'est un petit peu la même histoire que Turandot de Puccini. Hippomène, donc l'homme à gauche, reçut de Vénus 3 pommes d'or. Et pendant la course, puisqu'il devient candidat au mariage avec Atalante, eh bien, elle le laisse partir en premier, et pendant qu'il court, il jette successivement ses 3 pommes dorées par terre. Et évidemment, la trop curieuse Atalante les ramasse l'une après l'autre, ce qui la ralentit et qui permet donc à Hippomène de gagner la course. C'est aussi un petit peu le lièvre et la tortue qui reviennent ici. Mais malheureusement, Hippomène ayant oublié de remercier Vénus pour les 3 pommes qu'elle lui avait données, elle va le frapper d'un désir érotique soudain qui va le pousser à s'unir à Atalante dans le temple de la déesse Cybèle, ce qui est un sacrilège épouvantable. Et donc furieuse, Cybèle, la déesse de la terre, va les transformer tous les deux en lions et les atteler à son char. Voilà. Donc voilà pour l'histoire de d'Hippomène et d'Atalante. Alors, vous voyez que Hippomène, ici, a encore des pommes à la main. Il est en train de lancer l'une d'elles, enfin, il s'apprête à lancer l'une d'elles à Atalante, les deux étant placés parallèlement hein, dans le parc de Marly. Donc, ils courent tous les deux, comme chacun dans leur ligne, en quelque sorte. Et Atalante va donc être distraite par ses pommes. Alors, heureux de ce résultat, le roi va commander deux nouveaux bassins symétriques et on commande à Guillaume Coustou et à son frère deux autres statues de coureurs qui vont faire le pendant. Cette fois-ci, c'est Apollon et Daphné. Donc, le dieu Apollon, hein, le dieu du soleil, qui tombe amoureux de la belle Daphné, l'amour lui ayant décoché à lui une flèche d'or, c'est-à-dire une flèche d'amour-passion, mais malheureusement, il a décoché à Daphné une flèche de plomb qui lui inflige le dégoût de l'amour. Donc, évidemment, un amour qui n'est pas partagé. Donc, cette dernière s'enfuit coursée par Apollon et épuisée à la fin de sa course. Elle demande à son père, le fleuve Pénée, de l'aider. Et celui-ci va alors la métamorphoser en laurier. Et on sait qu'ensuite, Apollon va particulièrement chérir cette plante qui lui rappelle donc Daphné. Alors, contrairement au thème habituel, hein, vous avez peut-être en tête le célèbre groupe d'Apollon et Daphné du Bernin, qui a une virtuosité assez extraordinaire, où on voit vraiment Daphné en train de se métamorphoser en laurier. Ici, ce n'est pas du tout l'idée de Coustou, l'idée c'est vraiment de montrer la course folle des deux protagonistes. Hein. Elle n'est pas du tout en train de se transformer, elle court. Et pour ces deux duos, on a vraiment l'idée du mouvement qui est représenté, avec ce tour de force des deux sculpteurs de planter leur figure uniquement sur une jambe. Ils ne tiennent sur le socle qu'avec leurs jambes. Alors évidemment, ils cèdent du tronc d'arbre à chaque fois pour maintenir l'ensemble, pour avoir évidemment la stabilité qui est nécessaire pour les sculptures. Alors nous continuons notre petite promenade et nous arrivons devant l'abreuvoir. En 1698, un an après la paix de Ryswick qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, Louis XIV commande deux immenses chevaux ailés. Ils sont placés au-dessus d'une nouvelle structure, l'abreuvoir, construit par Jules Ardoin-Mansart, donc l'architecte de Louis XIV, qui comprend deux bassins, une partie supérieure avec trois jets d'eau, comme vous le voyez sur l'écran, et une partie inférieure, ouverte en pente légère depuis la route, pour permettre aux chevaux d'y pénétrer pour venir s'y abreuver. Alors les deux sculptures sont commandées à Antoine Coisevaux et les groupes sont mis en place en 1702 grâce à une équipe qui comprenait justement les deux neveux de Coisevaux, Nicolas et Guillaume Coustou, qu'on va encore retrouver juste après. Alors côté gauche, quand on arrivait du parc de Marly, on pouvait voir la renommée coiffée de lauriers, sonnant dans sa trompette la gloire du souverain. Habituellement, la renommée est représentée avec deux trompettes, une pour la bonne renommée et une pour la mauvaise renommée. Donc là, évidemment, on s'est dépêché d'éliminer la mauvaise renommée pour Louis XIV. Montée sur Pégase, qui est ce cheval ailé, elle tient également de la main gauche une branche de laurier. Le cheval cabré est soutenu par un trophée d'armes qui représente justement le roi victorieux sur ses ennemis. Côté droit, c'est Mercure, le dieu du commerce, coiffé du pétase, donc ce casque ailé, qui tient d'une main le caducé, que les médecins parmi vous reconnaissent, et de l'autre, les rênes de Pégase. Donc, assez étonnamment, on a Pégase deux fois de suite qui est représenté. Pégase, justement, ce dernier, est le symbole de la poésie, et donc des arts et des lettres qui sont également évoqués sur le piédestal de Mercure par les équerres, marteaux, ciseaux, donc les outils du sculpteur qui évoquent symboliquement les arts. Donc ce second groupe montre donc plutôt les bienfaits de la paix qui apporte l'abondance et la félicité, alors que de l'autre côté on a plutôt le roi victorieux guerrier hein, qui est illustré. Le cheval cabré est également soutenu par un trophée militaire comprenant un bouclier Alors j'ai fait un petit détail, voilà, sur lequel on voit l'Espagne qui apporte sa couronne à Philippe V d'Espagne, donc le petit-fils de Louis XIV, avec l'aval de la France. Donc vous voyez l'Espagne qui est à genoux, à droite, avec un lion juste derrière elle, qui est l'emblème de l'Espagne. Le jeune Philippe V qui est à l'extrême gauche, à laquelle il est en train de recevoir la couronne, et la France au milieu qui sert un peu de médiation, puisque Louis XIV accepte que son petit-fils saigne la couronne donc d'Espagne. Alors, je vous remontre évidemment le portrait de Coysevaux, puisque vous voyez bien qu'il a été immortalisé avec le premier cheval de la renommée juste à l'arrière du tableau. Alors, venons-en à la disparition des sculptures. Sous la Régence, donc Louis XIV meurt en 1715, après un très long règne, lui succède son arrière-petit-fils Louis XV, qui est âgé de 5 ans et qui ne peut donc pas régner seul. C'est son oncle Philippe d'Orléans qui est donc chargé de la Régence. Alors, sous la Régence, on abandonne Marly, on abandonne Versailles, et on va se recentrer sur Paris. Et le jeune roi est donc élevé au palais des Tuileries. Et le régent s'installe au palais royal, que l'on connaît bien aujourd'hui. Donc sous la régence a lieu un premier éparpillement des sculptures du parc de Marly, les plus belles sculptures étant alors transférées au jardin des Tuileries, qui devient, comme je vous le disais, le siège de la monarchie. On commence par transférer les deux groupes de Coysevaux, donc les deux chevaux, qui sont assez extraordinaires, à l'entrée des Tuileries. Ce que vous voyez très bien ici sur ce tableau, qui représente la visite de l'ambassadeur turc à Paris. Donc vous voyez à l'extrême gauche les deux chevaux de Coysevaux qui sont installés donc à l'entrée, à cette nouvelle entrée des Tuileries qui est remaniée à ce moment-là avec un pont qui permet d'accéder donc au parc. De la même manière, les six groupes du bas de la rivière, donc les deux trios que je vous ai montrés tout à l'heure, chasseurs, faunes, etc., sont également transférés aux Tuileries. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup de choses qui bougent à partir de ce moment-là. Alors un autre exemple intéressant, avec deux groupes qui ont fait vraiment un passage éclair à Marly. Le premier, c'est Aria et Paetus, ou Poetus, il y a différentes façons de l'écrire. Un groupe qui est commencé par le sculpteur Jean-Baptiste Théodon à l'Académie de France à Rome, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc au Palais Mancini, certains des sculpteurs commencent des œuvres qui sont destinées à la France. Alors Théodon ne s'entend pas très bien avec le directeur de l'Académie de France à Rome, on a gardé toute la correspondance. Il y a un moment où le directeur l'accuse même de l'avoir empoisonné, si vous dire, les bonnes relations qui existaient entre les deux hommes. Et puis surtout, le directeur trouve que Théodon est beaucoup trop lent, et qu'il ne réussit pas à terminer ce groupe pour l'envoyer en France. Donc il lui enlève le groupe, et il le donne à Pierre Lepôtre, c'est pour ça que vous avez les deux noms qui apparaissent à l'écran, en lui demandant de terminer ce groupe sculpté. Le groupe arrive à Marly en 1715, donc vous voyez, l'année de la mort de Louis XIV, un lieu qui reste malheureusement inconnu, et il reste très peu de temps, car dès 1722, il est mentionné aux Tuileries, déjà. À l'ouest du bassin circulaire, en pendant avec le groupe d'aînés que je vais vous montrer juste après. Et il rentre au Louvre en 1789. Alors l'histoire est tirée de Tacite. Paetus, c'est donc l'homme qui est à gauche, à votre gauche. Paetus est compromis dans un complot contre l'empereur Claude, qui va le condamner à mort pour, évidemment, crime de lèse-majesté. Il est évidemment très embêté, comme on le sait tous, à sa place. Et on a cette très belle scène avec son épouse, Aria, qui voit que Paetus est mis devant le fait accompli, et donc elle va décider de lui montrer la marche à suivre. Donc elle se saisit d'un poignard, elle se poignarde d'abord elle-même, et elle tend le poignard à son mari, c'est exactement la scène que l'on voit. La lame a disparu, mais elle tient le manche dans sa main. Et elle tend donc ce poignard à son mari en lui disant, en latin, « Poete non dolet », donc « Paetus, cela ne fait pas mal ». Donc elle lui a montré l'exemple et lui tend le poignard pour qu'il se poignarde à son tour. Donc c'est une scène de l'histoire romaine qui est souvent utilisée pour montrer cet amour conjugal qui relie, qui rassemble les deux époux ici dans la mort. Alors elle est représentée ici, soutenue par une suivante sur le côté, qui a le pied sur un coussin, tendant le poignard à son mari, en lui montrant du doigt la blessure qu'elle s'est faite au-dessus de la poitrine. Et à leurs pieds, vous avez un petit génie qui représente justement l'amour conjugal assis sur un chien, qui est aussi symbole de fidélité. Donc on a vraiment cette thématique qui est fortement montrée ici. Alors c'est une œuvre qui a moins de grâce que les coureurs qu'on a vus avant. Vous voyez que les tissus sont assez lourds, c'est moins virevoltant que les œuvres qu'on a pu voir juste avant. Alors en pendant, Pierre Lepôtre, toujours lui, réalise bien plus tard, hein, puisqu'on est en 1696, donc quelques années après, réalise ce deuxième groupe d'après une esquisse en cire de Girardon. Donc vous voyez que très souvent on a un modèle qui est donné et ensuite le sculpteur réalise son groupe final. Ce groupe arrive aussi à Marly en 1715 et il est transféré aux Tuileries dès 1717, donc c'est encore plus rapide. Lui, il a vraiment fait un passage express à Marly avant de rentrer donc au Louvre en 1989. Alors là, la scène représente Aîné, on est pendant la guerre de Troie, juste après la ville de Troie par les Grecs, après qu'ils aient fait rentrer le cheval à l'intérieur de la ville, et donc Aîné fuit la ville. Et on sait qu'il va aller fonder Rome, hein, un petit peu plus loin. Donc Aîné quitte Troie après sa prise par les Grecs. Il porte son père Anchise, qui, alors normalement il le porte plutôt sur le dos. Hein, là il le porte de façon très bizarre. Ça doit être assez inconfortable pour le porter. Qui lui-même tient dans ses mains le Palladium, c'est la statuette de Pallas Athéna, donc ce sont vraiment les statues des dieux qu'il faut absolument sauver de Troie. Et Anchise tient de l'autre main Ascagne, c'est pour ça que je vous ai mis la photo de l'arrière du groupe, son petit-fils, qui se retourne vers l'arrière, cherchant des yeux sa mère, Créuse, qui a disparu. Alors c'est vrai que c'est un groupe qui est toujours aussi symbolique, puisque avec ces trois personnages, il montre aussi les trois âges de la vie. On a le grand-père, le père, le fils, et puis, de façon toujours ironique, ce sont les trois hommes qui s'enfuient, la mère est laissée un peu à l'arrière dans le siège de Troie. Ancêtre des Romains, donc, est né et vêtu en soldat romain, alors que son père, vous le voyez, porte le bonnet phrygien, qu'on retrouvera évidemment un peu plus tard, au moment de la Révolution. Alors, les compagnes de Diane que je vous ai montrées tout à l'heure viennent également aux Tuileries à ce moment-là. Vous voyez qu'on a encore tout un paquet qui arrive. Et puis donc, en mai 1719, les deux groupes de Coisevaux, je vous le disais, sont transportés au jardin des Tuileries pour orner la nouvelle entrée, à une époque où, après la mort de Louis XIV, donc Marly devient moins important sous la Régence. Sous Louis XV, les piédestaux de l'abreuvoir de Marly demeurant vides, on va alors commander à Guillaume Coustou deux nouveaux chevaux avec une iconographie différente. Donc rappelons que Guillaume Coustou avait travaillé au groupe primitif de son oncle, hein, Coisevaux, comme on l'a vu juste avant. Coustou, il travaille dans un atelier de la cour carrée du Louvre, avec des éléments très virtuoses en marbre, comme les brides détachées des chevaux, ce qui explique qu'aujourd'hui, malheureusement, elles soient en grande partie manquantes. Hein. Vous imaginez tout cet élément en marbre indépendant du bloc qu'il fallait sculpter sans le casser. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Les brides, les crins hérissés des chevaux, qui sont également extrêmement fragiles, et les queues légères et flottantes de ces chevaux. Alors ils furent placés en 1746 sur leur piédestaux, l'année de la mort du sculpteur. Ils restèrent en place jusqu'à la Révolution. Ici, le sculpteur s'est souvenu d'un modèle romain, le modèle des Dioscures. Donc les Dioscures, ce sont Castor et Pollux, qui sont en train de retenir les chevaux fougueux devant le palais du Quirinal à Rome, le palais du Quirinal qui est aujourd'hui la résidence du président de la République italien. même s'il a ici complètement écarté le thème mythologique, hein, les deux personnages qui sont représentés ne sont ni Castor ni Pollux, ce sont deux palefreniers qui sont en train de retenir des chevaux assez indociles qui veulent s'échapper, hein, qui sont complètement cabrés. Ils sont retenus au piédestal par ces blocs de pierre, hein, ces gerbes également. Donc on a quelque chose de très naturel dans ce qui est montré ici. L'ensemble est beaucoup plus mouvementé et beaucoup plus moderne que les deux chevaux de Quasvo qu'on a vus juste avant. Il s'agit d'ailleurs pour les personnages de deux Indiens, ce que suggèrent les flèches tenues dans la main par le personnage que vous voyez à gauche et la coiffe de plumes qui est posée en fait par terre. On la voit un petit peu complètement à droite de la première figure, qui montre que c'est un Indien d'Amérique. Hein. Ils sont nus dans l'idée de montrer l'homme en train d'essayer de dominer la nature, avec encore une fois cette nature qui est montrée à la fois d'un point de vue animal avec ses chevaux et végétal avec l'herbe qui pousse au pied de ce piédestal. Alors ces deux figures vont suivre leur prédécesseur, elles sont transférées en 1795 à Paris et installées à l'entrée des Champs-Élysées, comme vous le voyez, en pendant de leur prédécesseur. Donc c'est assez drôle de se rendre compte qu'aujourd'hui, on a quatre sculptures qui ont orné Marly, qui se retrouvent quand même à des points particulièrement stratégiques sur cette place de la Concorde. Et voilà donc les copies, on va en reparler juste après, mais l'emplacement de ces chevaux de Coustou. Alors à la Révolution, vous savez que l'ensemble des résidences royales sont saisies par la nation. On va avoir deux situations. Certaines œuvres sont considérées comme étant extrêmement importantes d'un point de vue artistique pour le patrimoine national, et elles sont donc envoyées au Louvre, qui devient le premier muséum, donc le premier musée, si vous voulez, français. Pour celles qui sont considérées moins importantes, et en particulier pour le mobilier, vont avoir lieu ces grandes ventes aux enchères, où tout le mobilier royal va partir, en particulier à l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui certains des meubles de Versailles notamment sont dans les collections du roi d'Angleterre, dans les différents palais anglais. Alors les sculptures de Marly sont donc saisies à la Révolution, elles sont considérées comme d'une qualité artistique importante, beaucoup sont transférées aux Tuileries, encore une fois, avant d'être progressivement rassemblées au Louvre. Alors en 1981, on a justement la décision de faire le grand projet du Grand Louvre, hein, le projet de François Mitterrand, avec la création de la pyramide que l'on connaît, etc. Et on a cette idée, au sein de ce projet, de créer un espace spécifique pour la sculpture de Marly, dont le maître d'œuvre est donc le directeur du département des sculptures de l'époque, Jean-René Gabory. Et donc Jean-René Gabory va avoir l'idée de couvrir deux cours du ministère des Finances de l'époque, puisque le ministère des Finances est encore au Louvre à ce moment-là, dans l'aile Richelieu, afin d'abriter donc une grande partie de ces sculptures, et notamment en l'occurrence la sculpture de Marly. On commence par les chevaux de Marly d'ailleurs, qui sont encore à l'extérieur à ce moment-là, et qui sont présentés avec toute la pollution qui circule dans Paris, donc l'idée de les rentrer à l'intérieur pour mieux les conserver. Alors vous voyez cette cour, hein, aménagée avec de la pierre, cette verrière sommitale. Pour la partie centrale, on a aujourd'hui une évocation de la perspective axiale du jardin originel de Marly. Les groupes des nappes sont au premier plan. Alors la photo n'est pas totale, hein, ne montre pas l'ensemble. Vous voyez une partie qui est cachée avec justement ces sculptures des nappes. Sur un premier palier, vous avez les groupes de la rivière. Donc là, c'est ce que vous voyez après les premières marches. Vous reconnaissez Neptune et Amphitrite qui sont au centre. Et puis juste derrière eux, la Seine et la Marne, qui sont ici présentés avec d'autres vases qui viennent également de cet ensemble. Les chevaux de Coustou sont de part et d'autre, et les deux chevaux de Quasvo derrière, également très en hauteur. Aux angles de la première terrasse, Énée et Anchise et Paetus et Aria, vous voyez au premier plan, là, à côté des arbres, se font face, comme dans le jardin des Tuileries. La partie nord de la terrasse médiane expose Diane et ses compagnes, donc là vous ne les voyez pas, c'est hors de la photo en bas ici à droite. De la partie sud, les trois marbres de la cascade rustique. Et puis la terrasse supérieure porte au centre les trios de Coustou et de Coisevaux. Et sur les retours, au nord, alors là vous les voyez ici, les coureurs de Marly, vous apercevez là, donc on a Atalante et Hippomène et Apollon et Daphné. Et de l'autre côté, les copies des sculptures antiques que je ne vous ai pas montrées tout à l'heure, mais qui sont également présentées ici au Louvre. Donc on a quand même un ensemble assez cohérent, qu'il faut évidemment imaginer dans leur contexte d'origine à Marly, mais que l'on peut voir ici aujourd'hui au Louvre. Alors revenons-en à Marly. Plusieurs copies ou moulages des originaux ont été installés donc, au XXe siècle. Les moulages des coureurs, par exemple, ont été installés en 1996 et 1999. Alors, petite précision, ces statues qui se trouvent aujourd'hui dans le parc de Marly, on a deux sortes. On a à la fois des moulages, mais on a aussi des copies qui ont été faites par des sculpteurs du XXe siècle, d'après les originaux qui sont au Louvre. Donc c'est ça la différence. Quand vous vous promenez dans le jardin, vous pouvez voir un petit peu la différence de matériaux entre les sculptures qui s'y trouvent. Donc voilà les copies des trios dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de chaque côté. Alors pour une raison qui m'échappe, lorsque ces copies ont été mises en place, vous voyez que le piédestal complètement à droite est resté vide. Donc le chasseur n'a jamais été mis en place. Alors là, depuis que je suis arrivé à Versailles, on est en train de retravailler sur le parc et sur l'ensemble des statues. On est en train de refaire les panneaux de médiation qui seront présentés dans le parc, parce que les anciens commençaient à vieillir un petit peu. Et donc de refaire le point sur ces moulages, alors notamment l'Atalante qui avait perdu son bras lors des soit d'une dégradation ou d'un événement climatique. Donc le bras se trouve dans les réserves des ateliers de sculpture à Versailles, donc on a comme projet de le recoller très prochainement, donc vous pourrez retrouver Atalante avec son bras dans le parc, et il faut que l'on puisse échanger avec nos collègues du Louvre pour essayer de faire cette copie manquante aujourd'hui donc de ce chasseur qui pourrait retrouver donc Marly. Donc voilà pour la rivière où on a donc ces deux groupes également qui sont au bas de la rivière. Et puis l'autre emplacement, c'est cette entrée sur la place derrière la grille à côté du musée Promenade, où vous voyez, on a installé ces six sculptures en 2003-2004. Avec le Faune aux chevreaux de Pierre Lepautre, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, une œuvre de jeunesse, encore une fois réalisée par l'artiste à Rome en 1685, d'après une statue antique, une des compagnes de Diane, de Simon Mazières, qui a été livrée en 1714, et toutes ces statues de Diane et de ses compagnes ont été inspirées de la Diane à la biche, une sculpture romaine qui était présentée sous Louis XIV dans la Grande Galerie de Versailles et que vous avez ici représentée. Une autre compagne de Diane, de René Frémin, et la Vénus Callipyge, qui j'aperçois là-bas, de François Barrois. Donc Callipyge qui veut dire aux belles fesses, hein, donc Vénus nous montre son beau postérieur sur cette sculpture. Elle est exécutée également à Rome d'après la célèbre Vénus grecque de la collection Farnèse, qui se trouve aujourd'hui au musée archéologique de Naples, et elle a été ensuite pudiquement vêtue d'un voile par Jean Thierry après son arrivée à Marly. On considérait qu'elle était un petit peu trop dénudée. Voilà. Alors, une précision sur les sculptures qui se trouvent ici aujourd'hui, les copies n'ont pas été replacées à l'emplacement des statues originales. Hein. Sur cette place, on n'avait pas de sculptures à cette époque-là, mais voilà, la décision a été faite pour orner cet espace un peu vide aujourd'hui, de placer ces copies. Et puis donc sur la rivière, je vous le disais juste avant, deux copies en pierre, voilà, cette fois-ci, des divinités marines sont présentées à Marly depuis 2007. Et puis évidemment, on ne peut pas terminer sans les chevaux de Coustou qui ont été replacés de part et d'autre de l'abreuvoir et qui accueillent le visiteur lorsqu'on arrive depuis la route juste en face, et qui viennent rappeler l'histoire extrêmement importante de ces chevaux de Marly que le monde entier connaît aujourd'hui, avec tous les événements évidemment qui ont lieu sur les Champs-Élysées et que l'on voit à chaque défilé du 14 juillet en repensant à ces sculptures, donc primitivement pensées pour orner ce bel abreuvoir de Marly. Voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation. J'espère qu'elle vous invitera à retourner dans le parc de Marly pour revoir ces copies, ces répliques et imaginer celles qui ont disparu. À vous rendre au Louvre également aussi pour revisiter la cour de Marly, et puis à Versailles pour retrouver certaines petites sœurs ou grandes sœurs de ces sculptures qui se trouvent aujourd'hui dans le parc de Versailles. Et je vous remercie pour votre attention.